Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis, 19h-20h30. On va encore avoir beaucoup de choses à vous raconter. On reviendra naturellement sur les derniers résultats des journées de championnat de foot avec notre ami Stéphane Desenclos dans la partie foot. On aura également le journal Omnisport d'Alexandre. On reviendra sur un gros week-end de hand hein, avec les finales de Coupe de France qu'on a eu l'occasion de vivre à Bercy ce week-end. Et puis, fidèle à la tradition, on va parler de tous les sports. Et ce soir, donc, on va parler de baseball. Bonsoir à mon invité, donc Bertrand Maire. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Philippe.
Oui. Merci en tout cas.
Hein. C'est moi qui
vous
remercie.
On va donc parler un petit peu de votre itinéraire dans le baseball et puis découvrir un petit peu mieux ce sport de l'intérieur. Je vais saluer d'abord celles et ceux qui m'accompagnent. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ça va, t'es en pleine forme ?
Oui.
L'actu sportive est belle ?
Ah oui.
Ouais.
J'ai suivi hier
le hand.
Belle finale.
Très belle finale.
Masculine.
Ouais. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Bonsoir Philippe, ça va super.
Bon, ça va, t'es un homme serein, le Barça est champion d'Espagne.
Oui, serein. Je suis content de l'émission parce que vu que je vais aux États-Unis bientôt, en plus j'aurai l'occasion de voir un match de baseball.
Ah oui, tu vas où ?
À Miami.
Ah, tu vas voir Lionel Messi en portage.
Je vais voir Messi en plus de ça, mais
oui,
je vais aussi assister à un match de baseball.
Ah bah c'est bien. Eh bah, voilà. Tiens, tu peux prendre le micro pour aller faire un petit reportage. Hein. On verra
pourquoi
ça.
Pas.
Allez, Bertrand. Pourquoi le baseball, ça se passe comment pour vous, cette histoire d'amour avec le baseball ? Vous qui êtes en France, français d'origine ?
Oui, moi qui suis français d'origine. Ouais. Ça débute au CP, je crois, à Metz, en Moselle, sur les bancs de la maternelle, avec un jeune Américain qui me montre ces fameuses cartes de joueurs de baseball. Donc, dans l'imaginaire d'un enfant, c'est un peu des chevaliers sportifs avec leur bel uniforme que tu découvriras. Et de fil en aiguille, il n'y a pas de baseball en Lorraine. Donc, j'apprends sur le tas avec mes amis américains. Et puis, à 15 ans, je monte une équipe au lycée avec quelques joueurs, quelques jeunes qui avaient fait des voyages universitaires ou autres. Puis, de fil en aiguille, ça devient un club qui, aujourd'hui, est en première division 40 ans plus tard, si je puis dire. Puisque, comme tu l'as vu, je pratique encore, mais je ne suis plus tout jeune. Et j'en ai fait carrière sur la première partie de ma vie. Mmh. Donc en gros, pour être clair, j'ai raté à peu près toutes mes études. J'ai réussi à faire un brevet d'état second degré en parallèle en baseball. J'étais international espoir. J'étais premier conseiller technique régional en sortant de l'armée. À l'époque, il y avait le service militaire dans la région de Lyon. Et j'étais stagiaire, joueur-entraîneur aux Braves d'Atlanta pendant un mois, un début de saison au spring training. Voilà. Et à un moment donné, finalement, j'ai vu que j'étais arrivé au bout de ma passion à titre professionnel. Et puis, j'ai démissionné de la Fédération française, qui était mon premier employé à l'époque. Et j'ai été entraîneur-joueur pendant de nombreuses années pour de nombreux clubs. J'ai arrêté 10 ans. Et puis là, j'ai refondé un club dans le 16e arrondissement qui s'appelle Ranac Paris Baseball.
Oui, le plus ancien club parisien, hein, c'est
un,
ça.
Voilà, un des plus anciens clubs parisiens, un club centenaire, fondé en 1913. Et qui s'était mis en sommeil en 1930 et qu'on a réactivé 100 ans plus tard, suivi aujourd'hui par le Stade français, qui est aussi un club de légende dans le 16e arrondissement.
Oui, on connaît bien, on y va souvent, le Stade français.
Voilà, section baseball. Et puis il y a le PUC, qui est également un club centenaire. Donc c'est un sport presque quasi patrimonial à Paris, puisque c'est là qu'il est né en France.
Mais quand on est un jeune français passionné de sport, ça ne doit pas être facile quand même de s'intéresser à son sport. Parce que c'est vrai que, on n'est pas un pays de baseball. Alors comment on arrive comme ça à s'identifier aux grands champions ? À l'époque, il n'y avait pas toutes les télés, tous les réseaux sociaux. Bien sûr. Pour vivre sa passion.
C'est peut-être un peu le même état d'esprit que les skateurs ou les surfeurs.
Oui,
en fait, tu cherches un sport de différenciation, quelque chose qui te convient.
Foot-US, pareil. Hein.
Ou foot-US, ouais. Tout le monde joue au football ou joue au tennis à côté de toi, ça ne te convient pas. Et finalement, par contre, là, il faut avoir l'esprit d'entreprise, puisque quand il n'y a pas de baseball, ben, il faut s'organiser pour le créer. Après, il n'y avait pas de baseball dans ma ville à l'époque, mais après, dans toute la France, il y a plus de 300 clubs et terrains maintenant, donc c'est un sport qui est implanté. Donc voilà, il faut avoir la passion, comme toi à la radio.
Bien sûr. Pourquoi le baseball ? Parce que ça répond à une certaine culture américaine. Il y a ce goût aussi pour la culture britannique américaine.
Alors en fait, le baseball est un sport éminemment européen, parce que tous les pays d'Europe, il y a un sport de batte et de balle. Ouais. En France, vous connaissez tous la tech qu'on pratique en colonie de vacances. Il y a le schlagball en Allemagne, le lapka en Russie. Le stoolball dans les fermes anglaises à l'époque. Donc tous ces migrants qui se sont retrouvés à New York, ils ont codifié un sport commun en 10 règles. Et puis c'est devenu le baseball à la fin du 19e siècle. Et les Américains ont fait d'un sport traditionnel européen un sport qu'ils ont marketé, qu'ils ont créé, qu'ils ont fait grandir. Et les règles aux États-Unis, comme vous le savez, sont évolutives dans les sports. Donc la règle du baseball a évolué, continue à évoluer, comme celle du football américain. Et c'est devenu un des 10 sports les plus pratiqués au monde. Donc en France, finalement... nous, on a pris du retard parce que grâce au général de Gaulle, on a été, entre guillemets, les Américains sont partis en 1968, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe qui nous entourent avec l'OTAN. Donc il y a des bases américaines, des terrains et des ressources sportives fortes. Et en France, ce n'est pas le cas. Donc on a pris un retard aussi qui s'explique par notre souveraineté nationale, ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà.
Oui, parce que c'est le sport numéro un au Japon. C'est le sport le plus populaire au Japon, plus que les arts martiaux. Et parmi les trois sports les plus médiatisés aux US, avec le football américain puis le basket.
Tout à fait. Ouais. Donc au Japon, nos amis américains sont arrivés aussi à la fin du 19e pour faire comme fonctionnent les Américains, c'est-à-dire qu'ils ont un mode d'évangélisation au sens propre du terme, c'est-à-dire que ce soit Microsoft ou le baseball, ils se déplacent et puis ils vont prodiguer leur envie de développer ce type de sport. Et effectivement, le Japon était aussi... à l'époque, admiratif des États-Unis, et puis c'est devenu vraiment... Et c'est un sport, par contre, au Japon, il est pratiqué un peu différemment. Donc, il y a une véritable culture du baseball qui est beaucoup plus militaire, beaucoup plus dure. Et le meilleur joueur de baseball américain, d'ailleurs, c'est Shohei Ohtani, c'est le des Dodgers, qui est le meilleur joueur de tous les temps. Il vient du Japon, et aujourd'hui, il y a une école japonaise qui se mobilise à l'international.
Alors, il y a des noms, comme les foot américains. Chaque équipe a son propre nom. C'est dans la culture américaine.
Oui, c'est un lien avec leur... là où j'étais, les Braves d'Atlanta, c'est un lien avec la culture des Indiens à l'époque. Miami. À Miami, donc c'est les Rays, les Devil Rays, je ne me trompe pas. Donc c'est aussi c'est la Remonta. Il y a les fameux Yankees aussi qui sont une des plus grosses équipes mondiales et une des plus célèbres à New York. Et chaque fois, c'est lié à la sociologie du lieu et à l'historique.
Mmh. En France, il arrive comment alors ? On dit 1913 sur Paris, premier club.
Fin 19e, à nouveau, premiers échanges américains, les industriels français aussi qui se déplacent et puis qui ramènent ce sport. Paris a souvent été à l'époque aussi une ville très internationale, avec une grande communauté artistique américaine. Il y avait beaucoup de peintres qui venaient se former en France à l'époque, et en fait beaucoup d'étudiants et qui ont amené le baseball avec des industriels. Qu'on commençait à le pratiquer avec des Français dans le bois de Boulogne, en particulier dans l'Ouest, à Neuilly, Auteuil, à Colombes également. Et de fil en aiguille, il y a une ligue qui s'appelle la Paris Baseball League qui s'est créée début du 19e et qui regroupait 6 équipes majoritairement américaines, mais il y avait des équipes franco-américaines, dont le RANLAG, Paris Baseball, qui avait été fondé par... On s'en souviendra plus tard, mais on essaye de l'honorer, justement. RANLAG Paris Baseball et qui mélangeait américains et français. Donc nous, le concept du club, c'est l'amitié franco-américaine au départ, Et aujourd'hui, c'est devenu une amitié internationale parce qu'on a des, on a des Dominicains, des Coréens, des Japonais, des Mexicains. Donc le club est très international avec une majorité de Français expérimentés. Mmh. Et je trouve que, et puis bon, ça a d'autant plus une résonance dans l'actualité actuelle, l'amitié franco-américaine, parce que forcément avec tout ce qui se passe
par
les temps qui courent, ouais. Mais justement par les temps qui courent, c'est là où tu as besoin de cette ouais. amitié entre les peuples par rapport au sport, et au contraire, je veux dire que peu importe ce qui se passe politiquement, ce n'est pas notre rôle, nous on est apolitique, on est là pour le sport, et les États-Unis, la France ont toujours été liés, de même qu'on est liés avec nos amis dominicains, les Trinitarios qui jouent au softball à Bagatelle, etc. Donc c'est vraiment culturel et sportif en même temps,
oui.
et patrimonial dans le 16e.
Ouais. Sur la Russie, on n'y joue pas, parce que des fois que ça pourrait fédérer un petit peu la paix.
Ça pourrait peut-être un petit peu fédérer la paix. Il y a des très beaux terrains à Moscou, voilà. mais c'est vrai, on n'y joue pas. Il y a une très belle équipe en Ukraine aussi, mais ils ne jouent pas ensemble. Ouais,
alors, comment il s'est ensuite développé en France ? À l'heure actuelle, il y a combien de clubs sur Paris et sur l'Île-de-France ?
À Paris, il y a 8 clubs. En Île-de-France, j'ai plus le nom exact, mais en gros, tu as 2000 licenciés en Île-de-France et 800, à peu près 800 à Paris. Donc, avec deux activités majeures qui sont le baseball et le softball. Le softball, c'est la version
c'est pour les femmes.
Féminine, oui. mais c'est une version mixte aussi, avec une balle plus grosse. C'est un sport qui va très vite, voilà, et qui sera aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et, et aujourd'hui, on pratique également ce qu'on appelle le baseball 5, qui est une version plus street, entre guillemets, du baseball, qui se pratique sans battre sur des terrains adaptés. Et la France a été championne du monde, médaille d'or au championnat du monde, d'ailleurs, l'année dernière.
Et c'est facile de trouver sa place comme ça entre les grands sports comme le foot et puis le rugby.
C'est absolument.
Sur Paris, c'est compliqué.
Non, c'est après à Paris, on a la chance d'avoir voilà beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités. Après les terrains.
Mais il y a des terrains adaptés ou alors, faut les partager. C'est ça la difficulté.
Il y a deux terrains dans le bois de Vincennes à Pershing et Mortemart, donc ils sont deux terrains de baseball. Voilà, avec à côté de l'INSEP, le stade Pershing est un terrain tout à fait officiel, homologué pour faire des championnats d'Europe. Et nous, on milite, entre guillemets, où on travaille avec le stade français et puis la Ligue et le CD, finalement, pour réhabiliter Bagatelle, qui est vraiment un poumon vert de Paris que vous connaissez sans doute, qui aujourd'hui, finalement, est presque à l'abandon. Et c'est 2 kilomètres de circonférence d'herbe et qui était le fief historique où il y avait le baseball. Donc on se dit aujourd'hui, bon, grâce à Aliou Bali, l'adjoint au maire en charge du sport dans le 16e, on a obtenu d'un premier espace avec des tracés.
Que j'ai rencontré au Stade français, il m'a promis de venir un jour. Mais bon, ça donne un peu du temps, c'est compliqué. C'est un boxeur, donc c'est
champion
compliqué.
Champion du monde de boxe donc c'est un personnage.
Mais il a un emploi du temps très, 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 très chargé. Hein.
Oui.
Ouais, ouais.
Oui, donc, on lui en parlera.
Oui, oui.
Ce serait votre ambassadeur.
Donc, bon, effectivement, dans le 16e, on veut relancer Bagatelle.
C'est l'idée. Et l'idée, c'est effectivement, avec les contraintes de Bagatelle, c'est finalement de penser à un terrain éco-responsable dans un esprit un peu à la Central Park et de se dire qu'aujourd'hui, ce site-là, il est ouvert à tous les Parisiens. Et il faut en faire quelque chose de beaucoup plus utile pour les Parisiens que ça ne l'est pour le moment. Là, je parle simplement en tant que Parisien. C'est pas normal, finalement, que cet endroit-là, peu importe les règlements, etc., au cœur du bois de Boulogne, n'offre pas plus de services pour le sport. Alors, et il n'y a pas que le baseball, le foot US, il y a le rugby.
Oui, bien sûr.
Il y a nos amis pakistanais et français qui jouent au cricket.
Alors justement, c'est quoi la différence pour le grand public entre le cricket et puis le baseball ?
Rien à voir, en fait.
Rien à voir,
après, je ne connais pas très bien le cricket, mais c'est un sport...
Il n'y a aucune similitude.
Il y a une batte qui est différente et on lance la balle et on doit la frapper. Mais je veux dire, le terrain est rond et c'est pas tout à fait les mêmes principes. Après, globalement, ça demande des fondamentaux qui peuvent être comparables. Mais c'est deux sports différents. Et je suis mal placé pour vous.
Non, mais qu'on le dise bien pour le grand public. Parce que des fois, le grand public, il a un petit peu tendance à confondre le baseball, le cricket, la différence, c'est compliqué. Donc, il faut leur dire, rien à voir.
Cricket,
hein, excepté la batte.
100% britannique, indien,
et l'autre indien.
Et des règles radicalement différentes.
Alors, on va rappeler justement, pour ce grand public, les règles du baseball, les règles principales.
Ah, ça, c'est l'exercice de style à la radio. Parce que c'est déjà pas facile à expliquer devant un écran.
Oui, mais tant pis.
Donc, deux
les
équipes,
règles principales.
Deux équipes de 9 joueurs qui s'affrontent sur ce terrain, forme qui a finalement un quart de cercle avec un losange à la pointe. Donc, une équipe en attaque, une équipe en défense. Quand vous êtes en attaque, c'est là où vous êtes au bâton. Donc vous êtes seul contre les 9 adversaires et qui sont en défense avec les gants et le lanceur. L'objectif est de frapper la balle au mieux ou le plus loin possible pour atteindre la première base et puis ensuite progresser avec les autres frappeurs de votre équipe qui viennent vous faire progresser. Si vous êtes capable de frapper au fond, bah vous faites le tour des 4 bases d'un coup et vous avez marqué un point. Vous revenez au home, qui est un peu un fondamental dans la culture américaine, la maison, revenir à la maison. C'est autant dans les films de guerre qu'au baseball, assez drôle. Et une fois que vous avez eu 3 frappeurs qui ont été éliminés, c'est-à-dire que les défenseurs ont ramené la balle sur la base avant qu'ils n'y arrivent, ou ont rattrapé la balle de volée, vous passez en défense et les autres passent en attaque. Et une fois que chacun est passé une fois en défense et en attaque, c'est une manche a été accomplie. Et après, ça dure en 7 ou en 9 manches, donc ça peut être assez long.
Oui, alors donc les matchs peuvent durer combien de temps? Très longtemps, on peut avoir des matchs de 3 heures?
Oui, en moyenne, ça va de 2h30 à 3 heures. C'est pour ça que c'est aussi un sport familial, c'est un sport où il y a du fun, c'est un sport où on mange, on boit, on écoute de la musique, on discute.
Bien adapté aux Américains, quoi.
Oui, oui, vous avez raison. Mais bon, ça peut s'adapter aux Français aussi, parce que c'est... En fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Mmh. Et puis, comme je le disais, c'est vraiment de culture européenne. Donc, il y a un problème de développement de notre sport en France qu'il faudra lever dans le futur.
Écoute bien, Alexandre, hein, parce que tu as compris les règles au moins.
Ah oui, non, mais connaissais déjà les règles.
Hein, d'accord, c'est bien.
Je vais un peu rebondir sur la question de mon confrère. Les licenciés qui viennent, les pratiquants qui viennent, est-ce que... ils viennent, parce que c'est souvent véhiculé par les télé, les séries, les films américains. Souvent, c'est un peu comme ça qu'ils le découvrent. Est-ce que vos pratiquants, ils le découvrent comment? Est-ce que c'est par des amis, avec ces films américains, avec d'autres choses peut-être?
Oui,
c'est peut-être aussi. Ouais.
Il y a dans l'inconscient collectif français, on a tous l'image de quelqu'un avec un gant dans un film, une série américaine qu'on a vu. Ça nous a bercé. Donc la culture américaine, elle est omniprésente dans l'audiovisuel. Donc ça joue. Et puis de toute façon, il y a eu une accélération et une popularisation aussi avec les réseaux sociaux, puisqu'on est tous autonomes maintenant pour nos communications. Donc on peut être beaucoup plus actif, si je puis dire. Mais ça reste encore limité parce qu'on n'a pas de campagne de communication énorme ni de moyens forcément. Enfin, Ranelagh, c'est encore un club qui existe depuis, qui vit depuis 3 ans. Donc, un club, c'est une asso qui se structure. Donc, on y va par étapes. Le Stade français est très efficace sur les enfants et ils ont une communication dédiée. Et puis, que ce soit le 16e ou des arrondissements comme le 15e ou autre, voilà, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de scolaires. Après, il y a beaucoup de promotions à l'école qui est indispensable.
C'est des questions qu'on allait poser.
Les ambassadeurs, les personnes qui viennent.
C'est bien.
Oui, donc. Là, je vous cite un exemple. On a une collaboration avec le club Omnisport à Théon. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être de nom.
Oui,
Michel Chies, qui est président des OMS de Paris aussi.
Ils sont venus à la radio il y a 3 ans.
Qui est DG de ce club, qui lance avec nous une section baseball à l'automne prochain. Et notre première initiative, c'est un tournoi de scolaires, 500 scolaires, qui viendront le 10 juin à Jean-Bouin pour faire un tournoi de baseball et de flag football. Donc, on travaille aussi avec la Fédération française de foot US. Et donc, c'est des enfants qui sont formés déjà quotidiennement dans les écoles par le club Athéon ou par d'autres organismes. Mais c'est vrai que c'est plus le club Athéon qui est assez actif là-dessus. Et il faut que nous, les clubs, on aille aussi dans les écoles, ça commence là. Après, vous savez ce que c'est qu'une petite association française. C'est difficile, c'est du temps, c'est des sacrifices et c'est pas forcément facile pour des entraîneurs adultes non rémunérés d'aller travailler la journée dans des scolaires. Mais on y arrive petit à petit.
Et vous êtes combien là au club de Ranelagh actuellement?
Donc nous, on a choisi un positionnement plutôt vitrine et haut niveau pour le moment. Donc on est 30. X nationalité comme je l'ai dit et c'est plutôt des joueurs expérimentés que j'ai été recherché et à qui j'ai reproposé de relancer tout ça, donc c'est une aventure humaine aussi. Et puis beaucoup de jeunes, alors j'ai récupéré par exemple 3 jeunes qui étaient encore en équipe de France il y a 2 ans, qui avaient plus ou moins arrêté, donc voilà, et qui reviennent et on joue en Régional 2 et on a gagné le championnat de Paris l'année dernière et on essaye de voilà, d'incarner cette philosophie du baseball à Paris et de pousser, de médiatiser et de raconter aussi l'amitié entre les peuples et la culture entre les peuples comme j'ai pu l'exprimer tout à l'heure. Voilà, on est un club, on fait de la com aussi. On est là pour, on est au service de tous et on est très engagé. On essaye d'être très engagé aux côtés du nouveau comité de Paris qui n'existait plus ou qui était en sommeil et dans les projets de développement de la Ligue d'Île-de-France que je pilote avec son président Frédéric Kerbèche.
Donc, ça veut dire que finalement, c'est multi. Je veux dire, il n'y a pas de tranche d'âge dans votre club. Vous jouez ensemble avec des jeunes de
19 ans. C'est plus, voilà, nous, c'est plus voilà. 19 ans. Mmh. Donc, on travaille avec Athéon sur les scolaires. Et aujourd'hui, s'il y a nos auditeurs qui souhaitent jouer au baseball, voilà, il y a trois.
S'ils veulent venir, par exemple, bon, déjà, ils vont attendre le mois de septembre maintenant.
Ah bah, chez moi, ils vont attendre le mois de septembre, mais je parle au nom de tous. Au contraire, le Stade français a une section et déjà pratique un championnat 15U. Le PUC est très aguerri sur accueillir des jeunes. Et les Patriotes de Paris, qui sont également dans le bois de Vincennes, ont aussi des sections jeunes. Donc il y a des clubs qui sont plus aguerris que nous pour accueillir de la jeunesse. Donc il y a une offre dans Paris qui est déjà forte. Donc j'invite nos auditeurs.
Donc ils viennent carrément voir les clubs sur place, le site internet.
Allez sur les sites de PUC, Patriotes, Stade français ou Ranlag, et puis on vous orientera avec joie pour trouver le club. C'est ce qu'on fait tous les jours.
Et ça, quel que soit l'âge et quelle que soit la catégorie, et puis le bois, il n'y a pas de profil type.
Non, parce que nous, on est plus une équipe de compétition, mais aujourd'hui, il y a des clubs de débutants, il y a des équipes mixtes, il y a du softball, il y a du baseball 5, on peut accueillir les petits comme des ados. Donc, il y a une offre qui est très bien constituée à Paris.
Et on se spécialise quand on commence à jouer au baseball. Il y a le profil type, on se spécialise dans un poste ou on peut en changer.
C'est un sport qui originellement permet à chacun, en fonction de ses capacités physiques et de sa morphologie, de trouver un espace de jeu. Voilà. Donc là, en défense, on est plus spécialisé, puisque, comme je l'ai dit, on passe tous au bâton, donc on doit frapper. Mais en défense, on est plus spécialisé, donc en fonction de sa taille, de sa mobilité, etc. On va dire qu'au champ intérieur, c'est des gens vifs qui rattrapent des balles très, très rapides. Le catcher, c'est un peu le capitaine de l'équipe. Mmh. Il est harnaché, c'est le seul qui est face au jeu, donc, et puis il pilote le lanceur. Le lanceur, c'est la pièce maîtresse d'une équipe, donc c'est ce qui demande finalement le plus d'habilité et d'endurance, parce qu'il bosse pas mal, il n'arrête pas de lancer. Et puis au champ extérieur, c'est souvent des joueurs puissants, puissants au bat et rapides à la course. Donc, mais si vous êtes petit et dodu, on vous trouvera une place aussi, il n'y a pas de problème, il faut bouger quand même.
Donc c'est à la fois et très physique, parce qu'il y a quand même le cardio à un moment qui fonctionne, et puis technique aussi. Il y a beaucoup de stratégies dans votre sport.
Ouais, c'est très force-vitesse, parce que c'est vraiment un sport d'explosion.
Le cardio, ça,
sauf que c'est un sport, alors il faut rattraper une balle qui arrive vite, il faut frapper.
Ouais. À combien elle arrive la balle?
La balle, elle arrive en France, elle arrive à plus de 100 km/h. Et aux États-Unis, elle arrive à 190. Donc, ça fait une différence. Donc, vous regardez dans l'encyclopédie du sport, c'est ce qu'il y a de plus difficile, tout sport confondu, c'est de frapper cette balle de baseball avec une batte qui a la même circonférence, la même taille. Mm-hmm. Et alors, vous avez 0,3 seconde, en fait, pour analyser la trajectoire, savoir si vous y allez et puis la frapper. C'est la différence avec le golf où il y a une petite balle qui est statique. Je ne dis pas que le golf n'est pas compliqué, loin de là, parce que j'ai joué et je m'y suis arrêté. Tant que mes jambes me portent pour le baseball, je resterai au baseball. Mais je veux dire c'est vrai que c'est une grande difficulté au départ. Et puis après, il y a des techniques, on apprend.
Oui, ça se travaille.
Bien sûr, ça se travaille.
Donc ça veut dire que c'est à la fois et très physique et très technique.
Physique et technique, voilà. Et puis il faut lancer, il faut savoir lancer, il faut courir, il faut... C'est très polyvalent.
L'anticipation aussi,
En anticipation.
Ouais. Un peu comme au tennis.
Exactement. Ouais. Et c'est un sport très intellectuel parce que finalement, il y a toute une stratégie. Et en fait, on est tout le temps en train de penser à un truc en permanence, un positionnement. Il y a plein de petits points de règle aussi. Et il y a plein de choses à savoir. Et tout ça se fait par l'expérience. Donc aux États-Unis, pour départager quel est le meilleur club, ils font 160 matchs par an, c'est-à-dire qu'ils jouent un match tous les jours. Voilà. Donc un match tous les jours, il faut être au moins 25 dans l'équipe. Et puis tous les jours, les blessures, ça se
Donc il doit y avoir un coaching important quand même quand on est coach. Il y a beaucoup de stratégies dans le coaching.
Oui, le manager, il est effectivement, c'est plus on a vu de matchs et autres. Ouais. On a eu la chance d'avoir Bruce Bochy qui était le manager des Rangers, qui a gagné plusieurs World Series, qui s'est occupé de l'équipe de France il y a 2 ans. Donc on a une culture du management. On se rapproche aussi de Major League Baseball, c'est-à-dire l'organisme professionnel de baseball américain qui est omniprésent en Europe, mais qui était encore peu présent en France. Donc c'est un des travaux de la DTN, Stéphane Lesfarg, qui est un ancien athlète de haut niveau, qui est directeur technique national du baseball et qui travaille à la promotion et au, au rapprochement avec Major League Baseball, parce que finalement, aujourd'hui, la conclusion qu'on a, c'est qu'on est 12 000 licenciés. Si on veut passer à la vitesse supérieure, je pense que la professionnalisation est l'étape indispensable. Il n'est pas explicable qu'un club qui a été fondé, qu'une fédération qui a été fondée par le journaliste Franz Reichel du Figaro en 1924, qui a fondé le baseball, le rugby, exactement en même temps, qu'on soit dans des décalages de progression aussi incroyables. Oui. Je ne sais pas combien de licenciés sont à la Fédération française de rugby, mais ils sont pas à 12 000.
Non, c'est sûr. C'est sûr.
Ouais, oui. Voilà, donc comment l'expliquer et
bon,
peut-on faire?
Ça passe peut-être un jour, voilà, c'est un vieux pieu, par un titre olympique. Ce sera un véritable déclic.
Oui.
Hein, ça va redevenir olympique, le baseball.
Alors, c'est très bien. Malheureusement, à Paris, on n'a pas eu la chance d'avoir de baseball parce que ça aurait été l'accélérateur.
Ouais.
Mais bien entendu,
Los Angeles.
Voilà. Donc là, on est Horizon LA 2028. Bah, on a 3 ans pour travailler sur les sports US en général et le baseball en particulier. Et puis, de continuer à constituer notre offre et puis à développer ce sport. Et puis, pour le coup, travailler l'amitié franco-américaine parce qu'il y a eu un passage de flamme entre les deux mers et symbolique.
Ah, oui.
Et c'est à ça que servent les JO, me semble-t-il, à l'origine.
J'avais rencontré Karen Bass.
Voilà.
La mère de Los Angeles.
Voilà. Donc, vous vous souvenez de cette image entre les deux mers qui échangent la flamme. Et je pense que cette symbolique-là, il faut qu'elle prenne forme d'une façon ou d'une autre dans le futur, dans les liens franco-américains en particulier, parce que, à nouveau, c'est à ça que servent les JO, sinon c'est quand même l'origine de cet événement sportif, c'est de réunir les peuples et puis d'arrêter les guerres à l'origine. Et puis pour nous, c'est trois ans de promotion en se disant qu'en 2028, il y aura des sports US à la télévision de tous les côtés.
Et que
c'est bien de se mettre en ordre de marche pour pouvoir promouvoir nos sports en France, qu'il y ait une équipe de France de baseball au JO ou pas. Alors, il y en aura sûrement Baseball 5, en softball, je ne sais pas. En baseball, ça va être plus dur, mais bon, c'est pas dramatique.
Oui, et puis en vivre, si on est français, ça veut dire qu'on est obligé de partir et de s'expatrier.
Alors, il y a quelques joueurs il y a quelques joueurs professionnels en France, mais qui sont payés par des clubs.
Oui.
Mais c'est peu de Français.
Ouais.
Par contre, il y a quelques Français qui s'illustrent aux États-Unis,
oui.
en particulier, en Australie, parfois en Afrique du Sud aussi, dans des lieux où il y a les farm systems de Major League, c'est-à-dire des centres de développement du baseball professionnel. Il y a beaucoup de baseballeurs français qui ont joué dans les ligues industrielles japonaises dans les années 90, et il y en a quelques-uns aussi qui sont arrivés au meilleur niveau japonais. Donc effectivement, nul n'est prophète en son pays, il faut s'expatrier et puis s'exporter. D'abord on se forme en France, donc la France commence à avoir une capacité de former des athlètes de haut niveau depuis un certain temps. Et en fait, ce qui est assez notable, c'est de se dire que finalement c'est un petit sport, mais on a des joueurs d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller dans un collège aux États-Unis, on peut même avoir une bourse si papa et maman ne peuvent pas payer, parce que là, il y a un problème d'argent aussi, bien entendu, pour aller étudier aux États-Unis. On peut avoir une bourse et puis on peut, grâce au baseball, faire des études et puis utiliser la filière américaine et puis toucher l'univers professionnel.
Juste une question. Est-ce qu'on peut imaginer que la popularisation encore plus accrue de votre sport pourrait passer, par exemple, par un joueur vraiment qui s'illustrerait aux États-Unis, un peu comme Victor Wembanyama en basket, même si c'est différent, parce qu'il brillait déjà en France. Est-ce que ça pourrait être l'un des chemins
Oui, tout à fait. Là, il faut que je retrouve son nom, je m'en excuse, mais il y a un joueur qui vient de signer en minor league avec Chicago. Donc ça, c'est un événement important pour le baseball français, puisqu'en plus il a été formé en France. Et après, moi personnellement, et le propos qu'on porte de plus en plus à la Ligue Île-de-France, c'est de se dire qu'à un moment donné, il va falloir arriver à la professionnalisation aussi et la médiatisation. Donc on peut remercier nos amis de Beansport qui sont les seuls à diffuser du baseball parce qu'ils ont les droits. Donc au moins ça permet, alors il faut s'abonner bien entendu, mais au moins ça permet d'avoir une plateforme de diffusion qui parle de baseball. Et puis il y a des petits médias comme France TV Baseball ou autres qui sont des médias propriétaires du baseball qui commencent à diffuser
les
matchs.
Il n'y a pas une chaîne spécialisée?
Non, il n'y a pas de chaîne spécialisée.
Un petit peu comme le foot US où il n'y a pas des sites internet spécialisés.
Il y a, y a, ouais. y a euh, oui. France TV Baseball, qui est une appli qui diffuse les matchs.
D'accord.
Et il y a des stades qui de plus en plus s'équipent pour pouvoir diffuser et capter et diffuser sur leurs réseaux sociaux les rencontres. Donc ça, c'est déjà une grande progression, mais ça demande un certain nombre de moyens et autres. C'est Baseball TV France, pardon.
D'accord. Avant de donner la parole à Vanessa, je voulais demander le prix. C'est un sport qui est cher, le baseball, pour un jeune parent ?
En moyenne, à Paris, c'est entre 200 et 250 euros par an. Quelque chose comme ça pour l'année. Après,
il y a l'équipement. Après, il y a l'équipement.
Souvent, les clubs fournissent du matos aussi.
Alors, on va rappeler de quoi se compose l'équipement. Moi, je le sais, mais enfin, l'auditeur ne le sait peut-être pas.
L'équipement de base, ça va être un gant et une casquette, on va dire. Les bats, on les prête, mais un gant, c'est indispensable. À terme, on peut en prêter un, mais c'est un objet personnel. C'est en cuir.
Ça se trouve partout.
Il y a deux, trois. Il y a Diamond sur les Maréchaux qui, dans le 12e, qui en vend. Sinon, il y a 417 feet en banlieue qui n'est pas très loin, qui est vraiment un beau stock de matos de baseball. Et puis après, les gens achètent beaucoup sur le web aussi. Mais il faut justement à nouveau faire bosser les quelques rares Français qui aujourd'hui ont pris le risque d'investir dans le baseball et dans le sport US et au contraire plutôt que d'acheter pour gagner 10 euros et autres parce qu'en fait notre sport il passera par la création d'un marché, une valorisation. Il faut qu'on génère du chiffre d'affaires à un moment donné et générer des médias, c'est indispensable.
C'est un sport qui plaît aux parents. On se blesse souvent, non ? Est-ce qu'il fait peur un petit peu aux parents quand un jeune dit « je vais faire du baseball » ou bien au contraire ?
Au début, ils s'inquiètent pour la balle parce que la balle est dure. Vous en avez une là. Après, pour les enfants, il y a des balles plus molles. Après, on peut jouer au softball. Bon, la balle est dure, mais plus grosse, c'est parfois moins douloureux. Mais ça s'apprend. Il y a de l'équipement et autres. On ne peut pas dire que ce soit un sport dangereux. Je veux dire, c'est bien moins dangereux que le... Enfin, je ne dis pas que le rugby est un sport dangereux parce que c'est d'excellents pédagogues pour les enfants. Mais je veux dire, il y a très peu de contact et de choc au baseball.
Comment est le public qui vient vous voir ?
Rare.
Au bord de terrain, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est encore très, très confidentiel. Donc, naturellement, c'est un peu calme.
Quand on organise un événement dans l'hippodrome d'Auteuil, on partage le stade d'entraînement du stade français, là, qui est un terrain de rugby synthétique qui est aménagé pour le baseball parce que finalement il a des dimensions qui le permettent. Donc il y a toujours eu beaucoup de connivence entre le baseball et le rugby. Bon, c'est peut-être parce qu'on a le même fondateur, comme je disais tout à l'heure. On peut avoir 250-300 personnes quand on fait de la com, mais il faut faire de la com. Et aujourd'hui, la com, c'est du temps et voilà, on peut y arriver. Donc on fait un événement de ce type-là une fois par an et puis on communique à mort sur nos réseaux sociaux pour essayer de promouvoir ce beau sport.
Et les championnats, ça va, les déplacements ne sont pas trop, trop lointains entre clubs parisiens et franciliens ?
Non. Bon, c'est la région Île-de-France.
Ça va.
Ouais, et puis là, j'ai plutôt une équipe de joueurs qui avaient l'habitude de jouer en national. Donc là, c'est pas dramatique. Et le championnat départemental est très bien parce que finalement, il y a 8 équipes et il y a un vrai championnat qui tourne dans Paris, majoritairement dans le bois de Vincennes. Et ça permet d'avoir une vraie offre sportive et un vrai championnat qui tient la route.
Et on peut jouer par tous les temps ? Quand les sols sont un peu gelés, c'est peut-être compliqué, non ?
Non, on joue pas en hiver.
En gros, la saison
officielle est début de fin mars et puis ça finit fin septembre. Mais globalement, en France, on joue de fin mars à début juillet. Après, il y a les trêves estivales et puis on reprend septembre-octobre pour les play-offs et les finales.
Et comment ça se passe pour l'arbitrage ? Ça va ? C'est pas trop, trop compliqué pour un arbitre ?
Non, c'est comme les entraîneurs, il y a une commission régionale qui forme des arbitres et il y a tout un pool d'arbitres qu'il faut encore développer parce qu'il en faut toujours plus et puis c'est l'arbitrage et c'est le cœur du jeu aussi parce que sans bon arbitre, il faut un arbitre et un scoreur. C'est-à-dire, le scoreur, c'est quelqu'un qui pointe sur une feuille l'ensemble du match et qui nous permet, nous, les managers, de faire des statistiques aussi qui nous permettent de sélectionner. Donc, c'est un sport qui est éminemment statistique, très scientifique. Et aujourd'hui, moi, vous me donnez des chiffres sur un tableau. Je ne connais pas les joueurs, mais avec les chiffres, je peux constituer l'équipe autant en attaque qu'en défense. Donc, c'est, mm-hmm. c'est, euh, C'est un sport qui a été extrêmement...
Oui, il y a beaucoup de, beaucoup de stats, les, voilà, les très, data, on travaille
exactement,
beaucoup dessus.
Quoi. Exactement, les data qui est très élaboré et qui permet, voilà, qui permet une réflexion qui lui est propre, où il y a peu, finalement, il n'y a pas toujours... Enfin, il y a une part d'improvisation qui est due au coach, mais je veux dire, les stats nous permettent aussi de fiabiliser le sportif avec les joueurs qu'on a à disposition, bien entendu.
Alors, on parlait de médiatisation. Charletti, peut-être un jour? Il va être maintenant, Charletti.
C'est une très bonne proposition.
Hein bah
c'est
oui.
une très bonne proposition. Donc, vous avez peut-être vu dans la presse que G11s a récupéré
le Stade de France.
Et ils ont communiqué sur le fait qu'ils voulaient diversifier l'offre en baseball et en foot US. Donc, il y avait un projet de match professionnel d'équipe américaine en 2025 qui n'a pas pu se faire parce que justement, il y avait, voilà, le terrain était en cours, il y avait un appel d'offres. Et ça pourrait être une offre, ça pourrait être un lieu et quelque chose d'assez magique pour le baseball français de faire venir comme à Londres deux équipes professionnelles américaines.
Oui, ils le font pour le basket avec Bercy, les matchs
exactement.
À Bercy.
Donc à nouveau, ça passera par ce type d'événement pour montrer au top level ce que ça donne et puis inciter la promotion et le développement de notre sport.
Allez, la pause musicale. Ensuite, on va parler handball. On aime tous les sports.
Joie, mais j'aime,
donc on va revenir handball. Sur les épreuves de Coupe de France de ce week-end, justement à l'Accor Arena de Bercy.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà haut, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, la vie.
Voilà, bon, on va attendre un tout petit peu encore avant de parler. Il avait des questions. Alexandre, il faut me couper, il faut m'interrompre, je suis très bavard. Alexandre, alors, tu as une question.
J'avais deux questions. La première, c'est par rapport, on en discutait en off, mais c'est par rapport aux filles. Est-ce que, parce que vous avez dit que c'était le softball pour les femmes.
Ouais.
Et est-ce que vous, dans votre club, vous avez des licenciés? Vous savez si ça marche bien pour le public féminin ou pas?
Alors, il y a le softball qui à l'origine était un, oui, qui est plus en compète féminine. Et après aujourd'hui, il y a toute une voilà, il y a toute une génération de femmes qui jouent au baseball. Donc on avait nous à Anlag une internationale taïwanaise qui jouait avec nous là pendant un an. Et il y aura une ligue professionnelle aux États-Unis qui se lance en 2026, vraiment Ligue Baseball Féminin. Donc aujourd'hui, là en championnat départemental par exemple, et parfois en régional aussi, on voit de plus en plus de féminines dans les équipes. Et c'est la première fois que, bah, pour moi qui n'avais pas joué depuis 10 ou 15 ans, à l'époque on ne jouait pas en mixte au baseball. Donc toutes les jeunes femmes qui aujourd'hui développent les habiletés pour, bah, elles jouent avec des hommes au même niveau. Et okay. C'est une vraie évolution, c'est un vrai changement à la fois de mentalité et un vrai changement sportif.
Ok. Et c'était aussi par rapport à, parce que je disais aussi en off, que la tech, c'était un sport qui marchait très très bien chez les jeunes. Ouais. Que ce soit dans les colonies, dans les écoles primaires, dans les centres de loisirs, etc. Et pourtant, on n'arrive pas à bien faire le lien avec le baseball et à fidéliser les jeunes qui pourtant sont fans de ce sport, dont moi quand j'étais plus jeune. Et pourtant, on ne fait pas trop le lien avec le baseball, je trouve ça un peu dommage.
Non, c'est vrai. Donc, je fais des photocritiques. Pardon, on n'a sans doute pas réussi à suffisamment exploiter en fait cette activité ludique pour les enfants, pour créer un lien avec le baseball. Bon, on y travaille et je dirais qu'aujourd'hui, chez les scolaires, on développe le Baseball 5, qui est cette version plus stricte du baseball. Mais je ne sais pas expliquer aujourd'hui, ce soir, pourquoi finalement on n'a pas la tech ne résonne pas. C'est pas tout à fait le baseball non plus, donc ça se joue parfois avec une raquette quand t'as pas de batte ou autre. Mais on a tout un travail, nous, de communication et d'explication à continuer à faire dans le futur. Donc il y a un vrai enjeu de développement et tu mets le doigt sur un sujet, il y en a d'autres.
Bon, en tout cas, il va aller à Miami, il va aller un petit peu tester là-bas et puis il nous dira, il nous donnera son retour d'expérience. Allez, comme promis, donc on va revenir sur les épreuves de Coupe de France de handball qui se sont déroulées donc à l'Accor Arena ce week-end. Alors samedi, ça a commencé par la finale départementale masculine. Eh bien, c'est l'équipe du handball club de Bourganay qui s'est imposée devant Orvault 34-24. Ensuite, dans la départementale féminine, c'est Marguerite Handball, les clubs donc venus du sud de la région de Montpellier et de Nîmes, donc qui se sont imposés devant le club de Villeparisis 27-22. Ensuite, eh bien dans la finale en sud masculine, c'est Lyon qui a battu Pontecombo 37-23. Et puis finale régionale féminine, victoire de l'Espagne qui a battu donc La Rochelle Périgny 31-24. Et puis cinquième match, ça va nous intéresser parce que c'est la seule équipe francilienne qui a remporté la Coupe de France sur ce week-end. Hein. C'était la fédérale masculine et l'équipe de l'élite valdoise a battu Metz 28-25 à l'issue d'un match complètement fou. Ils étaient menés de 3 buts à la mi-temps, 15-12, et puis ils ont su renverser avec beaucoup de dynamisme et d'à propos la situation en deuxième mi-temps pour donc à l'arrivée l'emporter 28-25. Alors on va écouter la réaction de deux joueurs qu'on a eu naturellement en zone mixte. D'abord William Cluzel, ravi d'avoir pu ainsi donc renverser la situation avec son équipe. Bon William, quel incroyable deuxième mi-temps.
Exactement, on n'a rien lâché, on savait qu'en fait un match a joué en 2x30, donc c'est pas grave, on était serein, on s'est dit que tranquillement on allait remonter. Et c'est ce qu'on a fait, on n'a pas lâché. Si on connaît nos points forts, on sait qu'on pouvait remonter, on sait qu'on pouvait le faire petit à petit, construire le match petit à petit et au final donner ce résultat-là.
C'est la victoire du collectif parce qu'il y avait 3 buts de retard à la mi-temps. Hein.
Exactement. Mais justement, on savait de quoi on était capable. Donc on s'est dit tranquillement, tous ensemble, on ne lâche rien, étape par étape, but par but, et on va y arriver. C'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on peut gagner ce genre de match.
Il n'y a jamais eu un seul moment de petits doutes, de petits flottements. On n'a pas le temps dans ce match.
Exactement. Non. Justement, on savait qu'on pouvait le faire. Mais si on restait soudés et qu'on faisait, on prenait les choses étape par étape, sans précipitation. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était incroyable. C'était magnifique.
Ah oui, donc c'est une soirée qui va marquer fatalement dans la date d'un joueur, dans la carrière d'un joueur. On s'en rappelle toute une vie.
Exactement, toute une vie. Et puis aussi, il faut rappeler aussi l'événement l'année dernière, la finale l'année dernière qui nous a servi de leçon et d'expérience. On en a tiré les leçons et on s'est dit cette fois-ci, elle est pour nous. Et là, c'est vraiment mémorable. C'est, franchement, je pense que c'est la carrière d'un joueur, c'est quelque chose de magnifique.
Oui, et puis c'est aussi une belle bande de copains récompensée.
Exactement, une bande de copains. Ça fait la plupart d'entre nous, ça fait 3-4 ans qu'on joue ensemble. Et franchement, une belle bande de potes qui gagne un magnifique tournoi, une belle Coupe de France.
Et devant Bercy, devant un public de Bercy, la référence.
à Bercy, devant un public, mais nous on avait peut-être 700 personnes qui étaient là pour nous, devant notre public, fidèle public, et c'était incroyable. Franchement, on le remercie du fond du cœur, nous avons soutenu du début à la fin.
C'est bien pour le honte dans le Val d'Oise.
Exactement, parce que justement, on est le plus, chez les garçons, on est le club le plus haut, qui joue au plus haut niveau de Val d'Oise. Et franchement, c'est une belle lumière sur le handball du Val d'Oise.
Et la fin de saison, elle va être magique alors ?
Elle va être magique parce que là, la saison n'est pas finie. On joue la montée. Là, on joue deuxième finale, le week-end prochain, à gagner pour la montée.
La fête attendra un peu alors ?
Exactement, la fête attendra un peu. On va profiter, mais rester concentré sur l'essentiel qui est le championnat et la montée.
Merci William.
Merci beaucoup.
Ah oui, énorme remontée donc de cette équipe. Et même son cloche hein, de son coéquipier, donc Raouf Abdou MSA, lui aussi, il n'avait pas douté une seule seconde du retour de son équipe. Alors Raouf, quel deuxième mi-temps de fou ?
On a su se remobiliser parce qu'en première mi-temps, offensivement, ça restait cohérent, mais on n'arrivait pas à mettre les buts au fond. Défensivement, il fallait plus impacter les joueurs qui venaient secteur central, donc on a rectifié ça en deuxième mi-temps. Et puis ça s'est fait petit à petit, on est revenu ensemble avec un projet collectif. Et puis voilà, on a l'habitude de jouer ce genre de match.
Oui, c'est ce que disait William hein, juste avant, on n'a pas douté, on savait qu'en deuxième mi-temps, on serait mieux.
C'est ça, on savait que, de toute façon, on sait tous très bien que la mi-temps la plus importante, c'est la deuxième. Donc on est resté serein, on est resté... On a fait en sorte de rester ensemble et ensuite essayer de remonter petit à petit malgré le fait qu'à un moment il y avait un écart qui pouvait se creuser. On est resté positif et on est parti pour remonter le match. Quoi.
C'est la force d'un groupe, d'un collectif ?
C'est ça. C'est un collectif qui a commencé depuis le 29 juillet. Donc ça fait un bon bout de moment et on a pu créer un collectif super génial, vraiment.
La défaite de l'année dernière était effacée dans la finale.
Il y avait justement le fait que l'année dernière, on avait perdu cette finale. Donc on voulait vraiment rectifier cette défaite-là en venant aujourd'hui et gagner cette finale. Quoi.
Bon, puis il y en a d'autres après à jouer encore. Hein. C'est pas fini. Hein.
C'est ça, c'est pas fini. Là, il y a le dernier match à Draguignan. Aller gagner un match hyper important d'un point de vue classement et d'un point de vue projet du club. Donc va falloir... profiter ce week-end et repartir lundi pour une semaine de travail à essayer d'aller gagner à Draguignan.
Et comme on l'a dit avec William, la fête, ça sera pour après.
C'est ça, exactement. On fera les bilans à la fin de la saison et on pourra profiter de cette victoire pleinement.
Merci. Voilà donc pour la seule équipe francilienne à avoir gagné la Coupe de France ce week-end parce que dans le match suivant, c'était la finale nationale féminine, ça s'est beaucoup moins bien passé hein, puisque le Paris 92 n'a pas beaucoup résisté à l'impressionnante équipe de Metz qui a toujours maîtrisé ce match. Les Messines se sont imposés 32-18, il y avait 16-10 à la mi-temps. On va écouter une des joueuses de cette équipe de Paris 92, Barbara Moreto, qui comptait quand même donc rester malgré tout assez optimiste pour la fin de saison. Alors je suis avec Barbara. Barbara, la déception est grande ce soir.
Oui, forcément. Hein, quand on perd un match, il y a toujours de la déception. Après, voilà, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. Et quand on est derrière moins 6, moins 7 contre Metz, derrière, on sait que c'est très 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 compliqué de les rattraper, même à moins 10, on s'est dit, allez, on y croit, quand on fait du sport, il faut y croire jusqu'au bout. Après, aujourd'hui, elles étaient meilleures que nous, on ne pouvait pas rivaliser, mais je suis quand même contente de mon groupe parce que c'est une saison compliquée. C'est pas évident pour tout le monde et on arrive quand même à garder la tête haute, même si ça fait très mal au cœur de perdre de autant de buts en finale.
C'est quoi la force de cette équipe ?
La nôtre ?
D'abord, Metz.
Metz, je pense que c'est un tout. L'entraîneur, il sait utiliser toutes les qualités de ses joueuses. Tout est clair. Chacune sait ce qu'elle doit faire. Je trouve que leur projet de jeu, il est vraiment... Même si on sait ce qu'elles vont faire, c'est tellement bien réalisé que ça marche. Après, voilà, elles ont des grandes joueuses, des grandes joueuses de qualité. Il y a du banc, il y a de la rotation. Elles ont leur équipe. Nous aussi, on a une équipe de qualité. On a un nouvel entraîneur. On tente des choses. Metz, c'est Metz, ça fait des années qu'elles sont au top niveau, elles ont un Final Four dans 3 semaines. Je leur souhaite tout le bonheur et de la réussite parce qu'elles méritent.
La fin de saison ne va pas être même trop compliquée pour votre équipe ?
Si, parce qu'on rejoue Metz mercredi, après on va à Brest. On va continuer à tenter des choses, à essayer de prendre du plaisir. Après, on a encore 3 matchs qu'il faut gagner. Et on va à Nice, ça va être très important aussi pour nous parce que là, on doit prendre des points. Et on verra à la fin de la saison où on en est.
Oui, puis après, on pensera déjà à la saison suivante. Espérons-le meilleur.
Oui, exactement. On espère qu'elle sera meilleure. Après, on peut encore se rattraper sur ces derniers mois. Si on gagne deux matchs ou trois, on récupérera pas mal de points, peut-être une ou deux places au classement. Donc, ce serait bien.
Bon courage, Marc.
Merci, au revoir.
Voilà, ouais, il est temps qu'effectivement la saison se termine pour Paris 92. Alors, on a aussi eu les réactions de l'entraîneur Naïm Sarny. Lui, vous allez voir, assez fataliste concernant donc ce match et puis la saison de son équipe. Bon, je suis avec l'entraîneur donc, de l'équipe de Paris 92. Pas trop déçu de cette défaite?
Bah forcément, déçu par le résultat. On est tous un peu compétiteurs. Mais après, je suis vraiment fier de mes joueuses, de ce qu'elles ont pu donner sur le terrain. Les attitudes comptaient aujourd'hui et elles se sont bagarrées avec leurs armes. Et il faut reconnaître qu'en face, c'était plus fort que nous aujourd'hui.
Qu'est-ce que cette équipe de Metz avait en plus? Son collectif, globalement?
Oui. Il y a un niveau de jeu qui ne baisse pas pendant une heure et c'est sur la durée où elles arrivent à faire ces éclats-là. Donc c'est son sérieux et sa rigueur en attaque. Et je pense que c'est le fruit de travail au quotidien. Donc faut les féliciter pour ça. Et c'est même inspirant. Donc on va essayer de continuer à travailler pour se rapprocher de cette équipe-là.
Ça va être facile de remobiliser le groupe après une telle défaite?
Ça va être facile parce qu'il faut rester humble. Les choses ne sont pas arrivées par hasard à Metz. Je l'ai dit, c'est à force de travail qu'elles en sont arrivées là. Donc avoir l'humilité et retourner au travail, si on veut prendre exemple sur elles, oui, c'est un discours qui est assez simple à tenir aujourd'hui pour un entraîneur.
Il reste trois derniers matchs, hein, je crois.
Non, il nous reste quatre matchs.
Donc l'objectif, c'est de bien les finir et déjà penser ensuite à la saison suivante.
Là, on enchaîne sur Metz, Brest. Donc autant dire que ça va être encore deux rencontres où on va emmagasiner beaucoup de leçons et qui pourront nous faire grandir, je l'espère. Après, il restera Nice et Mérignac pour tenter de bien terminer l'année et se dire au revoir sur de beaux souvenirs.
Merci en tout cas.
Merci à vous.
Voilà, et puis on pouvait ne pas finir cette série d'interviews des matchs de samedi soir avec un monument, une légende du handball féminin français. Elle a fait 15 arrêts dans ce match. C'est Cléopâtre Darleux. Elle est à quelques semaines de la fin de sa carrière. Et à Cléopâtre, on lui a demandé si avec cette victoire, la dernière ligne droite de sa saison s'annonçait plutôt bien.
Bah super bien. On était contente d'arriver à Bercy, de jouer ici. C'est un peu la saison qui se concrétise parce que jusque-là on n'avait encore rien gagné malgré une saison parfaite. Donc enfin on a notre premier titre, c'est hyper important pour le club, pour récompenser tout le staff, tout le collectif, tout le club, tous les supporters qui sont venus présents aussi aujourd'hui. Donc hyper heureuse pour le groupe et on continue.
Donc un premier titre qu'on appelle d'autres.
Ouais,
le triplé quoi.
Comment?
Le triplé.
Bah après c'est notre objectif. C'est notre objectif. Là en tout cas il y en a un qui est rempli. Le deuxième, si on gagne nos deux prochains matchs, sera rempli. Après ce sera encore autre chose, mais en tout cas on travaille pour.
Ce sera un beau feu d'artifice pour finir la carrière.
Hein. Carrément. Ouais. Faut qu'on emmène les pétards, ouais.
Qu'est-ce qu'elle est sympa, Cléopâtre Darleux. 4e succès consécutif pour Metz dans cette Coupe de France. 13 au total. On espère tripler Vanessa. Hein,
bah oui.
Des Messines, puis pour la fin de carrière de cette légende du sport français.
Oui, tout à fait. Puis ouais. Metz, c'est quand même une ville emblématique pour le handball. Donc c'est il y a cette domination et on espère que ça va continuer pour eux. Voilà.
Allez, allez.
Voir des beaux matchs.
Oui, le dimanche, donc c'était la finale régionale masculine. C'était donc le premier match de ce dimanche. C'est l'équipe de Saint-Genis Laval Handball qui s'est imposée devant celle de la jeunesse athlétique Île 36 à 30. Ensuite, il y a eu la finale du hand fauteuil. C'est l'Union sportive lédonienne qui l'a emporté devant le club de Cantelet, 12 à 6. Et puis, troisième finale, finale fédérale féminine, large victoire des Nîmoises, hein, Nîmes-Gare, qui n'ont jamais été en véritable difficulté et qui ont toujours mené face aux Savoyards de la Motte Servolex en s'imposant assez facilement 34-28. Et puis, on a fini donc cette série de matchs de Coupe de France par une finale de légende, hein, une finale exceptionnelle, 28 partout.
Match nul et ouais, tir au but.
Ouais, il y avait 17-16, un tout petit but d'avance pour Montpellier à la mi-temps. Montpellier a mené à un moment jusqu'à donc plus de 3 buts d'avance. Et puis, dans les toutes dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, le Paris Saint-Germain est donc revenu. Ils ont donc joué la séance de tir au but. Il y a eu 3-3 dans la première séance. Et ensuite, eh bien, on a fait comme au foot, hein, la mort subite. Ça s'est terminé donc par une victoire des Montpellierains, qui est le club le plus titré. Hein,
14
Montpellier,
titres.
Ouais, qui a remporté son 14e titre de Coupe de France.
Après 7 ans de disette, entre ouais, guillemets. Hein, ouais. Depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur. Ouais. Il y a eu beaucoup de changements et puis ils ont quand même ouais, réussi à concrétiser.
C'est fabuleux. Ouais.
Ouais.
C'est une grosse performance.
Donc ils ont gagné cette série de tirs au but 8-16, ce qui fait à l'arrivée eh bien, un résultat de 36 à 35 après donc, cette séance de tirs au but. Alors on a demandé d'abord un petit peu eh bien, le sentiment de l'entraîneur Raúl González Gutiérrez, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui va quitter le club au 1er juillet. Un petit peu quelle était sa réaction, mais du côté du PSG, on n'est pas trop déçu. On reconnaît quand même que Montpellier méritait la victoire. L'entraîneur, donc d'abord Raúl González Gutiérrez.
Catastrophe, parce qu'on a perdu, on avait la chance de gagner, on a eu la chance de marquer les derniers pénaltys, on a raté le tir et ça leur a donné la chance à Montpellier de gagner.
Au vu de la physionomie du match, vous êtes encore à moins 3 à 5 minutes de la fin. Est-ce que arriver au tir au but, c'était déjà pas un...
Voilà, le match a commencé bien, on a pris des trois buts de différence et après Montpellier est revenu et à la fin, ouais, parce que le match dure 60 minutes, on a eu la chance d'avoir la dernière attaque pour gagner, on a raté aussi, alors c'est comme ça.
Offensivement, ça a été assez compliqué, notamment de contenir Echam, qui fait un très gros match.
Ouais, c'est compliqué parce que Montpellier a des bons joueurs, ils ont préparé le match très bien et maintenant, je pense que tout le monde... On voulait gagner la finale, on a essayé de la faire, on a perdu, c'est tout.
Vous n'avez plus qu'un titre à aller chercher maintenant, avant la fin de saison?
Il faut. Pour l'instant, on n'a rien. Parce que ça va être très compliqué de gérer. On joue à Nîmes, on joue à Montpellier. Après, il faut gagner un poids sur deux matchs. Et après, il faut gagner les deux matchs qu'il reste ici. La Ligue en France, on voit. Montpellier est très fort, Nantes est très fort. Et tout le monde est très fort, c'est pour ça qu'il faut être prêt.
Voilà, il faut essayer d'éviter la saison blanche du côté du Paris Saint-Germain. C'est un petit peu le sentiment des deux joueurs qu'on a interviewés. Wallem Peléka, tout d'abord. Wallem, quel match quand même, malgré la déception de la défaite.
Ouais, malgré la défaite, c'est un match engagé de la part de deux équipes qui sont dans le haut tableau de championnat. Donc, c'était un super match à jouer et je pense que les spectateurs ont eu un bon spectacle avec cette finalité. Malheureusement, il fallait bien un perdant et un vainqueur. Donc aujourd'hui, on est dans ce rôle de perdant. Donc,
vous êtes à moins 3 à un moment et puis vous arrivez à revenir.
Ouais, on arrive à revenir, mais aussi on a pêché dans des paires de balles, tout ça. Donc, il faut y remédier parce qu'on a encore un match contre eux dans deux semaines. Donc, essayer de corriger tout ça grâce à la vidéo et repartir de plus belle.
Parce qu'il faut impérativement le titre pour éviter une saison blanche. Hein.
Exactement. Pour vraiment dire qu'on n'a pas eu une saison blanche. Donc, on a encore la chance de pouvoir gagner le titre. Il nous reste encore quelques matchs, donc on doit aller chercher.
Ça va le faire?
Oui, ça va le faire.
Voilà, puis deuxième donc interview recueillie, celle d'un joueur qu'on ne présente plus, donc Elohim Prandi, le joueur charismatique du Paris Saint-Germain, qui lui aussi naturellement veut rester malgré tout positif pour cette fin de saison. Elohim, quel match, quelle fin de match, ça a des regrets quand même.
Ouais, des regrets parce que j'aurais bien aimé qu'on ait cette agressivité qu'on a mis en place dans les 5-7 dernières minutes pour... pour essayer voilà, de les contrer, de contrer leur attaque avant et de faire en sorte d'essayer de creuser l'écart. Maintenant, ils ont été vraiment très forts. Ils ont été dans leur jeu, ils ont été dans leur registre, ils n'ont pas lâché. Même quand voilà, on est revenu à 28-28, même si ça joue sur les pénaltys et là c'est un duel tireur-gardien, ben voilà, on a essayé de parer leur défense, leur tactique offensive. Mais aujourd'hui, Montpellier a été fort et nous, on n'a pas peut-être mis assez d'ingrédients pour aller chercher cette Coupe de France.
Perdre au but, au tir au but, ça laisse encore plus de regrets ou finalement le résultat est le même
non,
à l'arrivée?
Non, comme j'ai dit, c'est un tout autre combat. C'est un duel tireur-gardien, c'est en 1 contre 1 et c'est beaucoup de pression. Et donc moi aujourd'hui, voilà, c'est la loi du sport. Malheureusement, bah, ça aurait pu être nous, c'est eux. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur des séances de pénalty. Donc voilà, aujourd'hui, il faut accepter la défaite et féliciter les vainqueurs et aller travailler de nouveau pour aller chercher le championnat.
Effectivement, il y a un titre à aller chercher pour éviter la saison blanche. Hein.
Non, on n'a pas cette mentalité-là. Moi, je vais essayer voilà, de mettre du positif dans le vestiaire, du positif avec les mecs, essayer de, voilà, qu'ils comprennent que ok, c'est dur, c'est frustrant, mais on ne va pas laisser passer ce championnat où vraiment on est bien. Il faut qu'on remette le pied à l'étrier, voilà, ça arrive de tomber, mais il faut se relever, il faut grimper sur la selle et aller vers l'avant. C'est tout ce qui importe à l'heure actuelle.
Et comment on se remobilise comme ça dans les jours qui suivent? Comment on arrive à le faire? Comment le groupe arrive à le faire?
Retrouver de la confiance, positiver, voilà, retrouver les fondamentaux en attaque, retrouver notre activité défensive et être au soutien de chacun et resserrer les rangs, voilà. Pas qu'on est dispersé, au contraire, on est vraiment tous là à être les uns pour les autres. Voilà, on est une équipe, on s'apprécie tous et on a envie d'aller chercher ce dernier championnat de France pour certains mecs qui vont partir. Pour nous, c'est vraiment primordial et important.
D'accord, merci en tout cas. Voilà, puis dernière interview, bah, on pensait avoir terminé. Puis on a rencontré des supporters montpelliérains quand on a quitté donc l'Accor Arena. Alors on a écouté les confidences d'un de ses supporters, très joyeux de son déplacement donc ce week-end dans la capitale. C'était Guillaume.
Salut Guillaume, un supporter montpelliérain. Guillaume, la joie est belle hein, ce soir. Vous avez gagné au tir au but, mais quel match?
Match magnifique, magnifique. On avait le match en main, on a pu gagner plus 3 sur la fin, ils sont revenus. Après le tir au but, c'est magnifique.
Vous êtes venu spécialement dans le sud des finales à Paris, donc la fête va être belle. Hein.
On a roulé toute la nuit. Ouais. On est venu en bus, on a roulé toute la nuit et on repart ce soir quand on aura fini de faire la fête.
Ouais. Ça fait du bien, vous suivez l'équipe de hand régulièrement ou alors tous les sports sur Montpellier?
Principalement le hand. Ouais. Après tous les sports, mais surtout le hand. Ouais. Le hand, c'est Montpellier, c'est le club de cœur, c'est le club le plus titré de France. Ouais. Donc on rajoute enfin une nouvelle Coupe de France, c'est magnifique.
Bon bah c'est bien, ça compense un petit peu quand même la déception du foot et puis le rugby qui est moyen.
Oui, bon après le foot c'est pas un vrai sport. non, c'est sûr que c'est pas mal, mais bon, là, c'est génial, c'est un moment fantastique. Ouais, bah. Donc c'est génial. Je vais vous laisser parce qu'on nous attend pour la photo.
Allez-y Guillaume, ratez merci. Pas la photo, merci.
Voilà, bah oui, il n'a pas raté la photo et nous, on va écouter la deuxième pause musicale et ensuite on va écouter notre ami Stéphane, c'est ça le sport. Hein. Allez, la musique avant.
Forgiving him was the first thing I had to do in order to move on. Forgetting it was not as easy to do. I had to teach myself to be strong. And it's so easy to be scared when I think of all that I shared. When I think of how you made me feel, the bad and the good. Sometimes I wish I could take it back, but we can't go back. Gotta keep moving. It's so good, don't wanna hear no woulda, coulda. Maybe I shoulda stayed with someone who never knew. to admit you were the only one at fault. I was wrong too, trying to be someone I knew that I wasn't. I thought I could make myself happy with you, and it's so easy to be scared when I think of all that I shared, when I think
Voilà, bah cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions des semaines précédentes. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à
bonsoir
tous.
Stéphane.
Bon, ça y est, les verdicts bonsoir. Sont tombés hein, sur la fin ouais. des championnats de pour la Ligue 1 et le National. Il y a eu quand même quelques surprises inattendues.
Ouais, bah la principale, ça a été quoi, en tout cas en ce qui concerne
Strasbourg.
Voilà, le Havre, oui. Saint-Étienne, Strasbourg. Du coup, Lyon aussi, qui récupère un petit quelque chose. Et puis, voilà, c'est l'essentiel, quoi. En national, j'ai pas bien fait attention. Oui. Quoi. J'ai vu que le Paris Atlético était sauvé.
Oui. Mais on va en parler. On va en parler. Alors, effectivement, donc, en Ligue 1, on va rappeler que Paris Saint-Germain donc, a fini sa saison donc, en beauté, même s'ils étaient menés au début de ce match. Mais finalement, ils se sont imposés devant CR 3-1. Marseille a donc confirmé sa deuxième place en battant Rennes 4-2. Victoire de Lens devant Monaco 4-0. Comme quoi, vous voyez, Monaco, bah, c'est à l'image de sa saison. Hein. Un coup, c'est bon. Un coup, c'est moins bien. Nice a écrasé Brest 6-0, Lille-Barins 2-1. On va voir que ça, c'est une défaite lourde de conséquences pour les Rémois parce que l'exploit, eh ben c'est le Havre qui est allé le faire. Donc en allant gagner à Strasbourg 3-2 avec un but à la 97e minute, un pénalty en plus un petit peu gonflé avec cette Panenka. Hein. Et puis victoire de Lyon devant Angers 2-0, défaite de Toulouse qui n'avait pourtant plus rien à jouer. Qui n'avait plutôt plus rien à jouer et qui donc va s'imposer à Saint-Étienne 3-2. Et puis Nantes qui écrase Montpellier 3-0. Ce qui fait que donc PSG finit ce championnat avec 84 points, champion de France, devant Marseille 2e 65, 3e Monaco 61. On sait que ces trois équipes-là joueront la Ligue des Champions. Nice 4e 60 devra passer par un tour préliminaire de Ligue des Champions, puisqu'ils ont donc 60 points, comme Lille 5e, mais un goal-average supérieur, plus 25 pour Nice et plus 16 pour Lille. Lille qui jouera la Ligue Europa et Lyon qui, du coup, avec la défaite de Strasbourg, eh bien, pour l'instant, joue la Ligue Europa Conférence. Lyon 6e, comme l'année dernière, qui revient arracher sur le fil une place en Coupe d'Europe, donc avec 57 points, mais un goal average de plus de 19. et Strasbourg qui est privé pour l'instant de Coupe d'Europe, 7e avec 57 points, mais un goal average de plus de 12. Je dis bien pour l'instant parce que tout va aussi dépendre du résultat de la Coupe de France entre Paris Saint-Germain et Reims. Et puis en bas classement, donc 13e Nantes, 36 points. 14e Angers, 36 aussi, mais goal average supérieur pour les Nantais. 15e Le Havre, donc, qui sauve donc sa place en Ligue 1, comme l'année dernière, ric-rac, avec 34 points. 16e Reims, donc, qui du coup devra passer par les barrages avec 33 points. Et 17e Saint-Etienne, 30 points, qui va retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Et 18e et dernier, mais ça on le savait condamné depuis très longtemps, c'est Montpellier avec 16 points. A noter que Dembélé et Greenwood se partagent la première place donc à la place des buteurs avec 21 buts. Mais un ratio supérieur donc pour Dembélé.
Il faut faire attention à ce qu'on dit, mon ami Philippe. Oui, ils ne se partagent pas la première place. Le premier, c'est Ousmane Dembélé.
Ah, absolument, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il termine avec le même nombre de buts, 21 points.
Oui, ils ne se partagent pas la première place.
Mais pour l'instant, c'est Dembélé. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Dembélé, donc, qui avec le ratio, donc, termine devant
Greenwood. Je rigole, hein, je rigole parce que dans les faits, effectivement.
Non, mais il faut être très complet, Stéphane. Voilà.
Et c'est comme ça, surtout que ce qui est assez incroyable, que ce que personne pratiquement, si on portait des petites touches par rapport à cette dernière journée, ou même ce qui a été incroyable, c'est quand on regarde, regardez chez vous, là, ceux qui nous écoutez, qui est, en plus, si vous êtes supporter à l'Olympique de Marseille, quand Adrien Rabiot marque le but du 4-2, son deuxième but à Rabiot, il a calvé la tête, il la met au centre à Greenwood, il la pousse au fond des buts et puis il est tout seul meilleur buteur de Ligue 1, quoi. Donc c'est bon, peut-être qu'il n'est pas habitué à marquer, qu'il l'a pas fait exprès tout, mais bon, il y a peut-être pas non plus cette énorme volonté de vouloir faire Yannick Greenwood comme au Paris Saint-Germain. Il y a eu ce penalty raté par Gonçalo Ramos à la fin. Bah, c'était 5 minutes après que Dembélé soit sorti. Et s'il était là, je pense qu'il aurait forcément tiré le penalty pour assurer. Et ce qui prouve que, de toute façon, quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est surtout nous, quoi, les supporters ou les gens qui suivent, qui s'intéressent beaucoup à ce genre de, à ce genre de stats et tout, mais les joueurs, apparemment, beaucoup moins. Puisque, même par exemple, Dembélé aussi est sorti à, je crois, à peu près à au moins 20 bonnes minutes de la fin du match au Parc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'essentiel des séances qu'il y a de Wood. C'était pas essentiel.
Mais on se doit d'être complet, Stéphane, en tant que journaliste. Donc, Reims, bah, on l'avait dit, hein, attention, rien n'était joué pour les Rémois. Ils pouvaient encore, malheureusement, être barragistes et ils vont l'être. Puisqu'on va rappeler quand même que donc, les matchs de barrage entre Metz et Reims donc, se joueront du coup le 21 mai pour le match aller et le 29 mai pour le match retour. Ça va compliquer un petit peu leur fin de saison, aux Rémois.
Ouais, mais surtout, c'est quand même un fait inédit. Et. Oui. Autant je pensais qu'ils avaient quand même, on ne sait jamais, avec la finale de la Ligue des Champions une semaine après, que Paris Saint-Germain ne serait peut-être pas à 100% au niveau notamment mental à cette finale. Autant là, ça va être très très compliqué pour Reims, qui va quand même jouer le match aller, trois jours après la finale de la Coupe de France, et quatre jours après son match retour de... Alors on va voir comment va se passer le match aller. C'est sûr que s'il gagne 3-0 à Metz lors du match aller, ça sera plus simple pour eux. Mais bon, je pense que ça va pas plaider pour leur finale de Coupe de France.
Ouais. En tout cas, il y a un joueur, mais là, c'est pour la petite histoire, qui doit être bien ennuyé dans ce match, c'est Robert Pirès, ça.
Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est ouais, clair. Ouais. Ah, voilà. C'est vrai, c'est clair, non, mais puis après, bon, ça va être deux équipes quand même un peu décevantes, parce que Metz a quand même aussi déçu.
Alors on va en parler justement, hein, puisque
et passer un peu à côté de certains trucs. D'ailleurs là, ils ont eu quand même beaucoup de chances de gagner contre Dunkerque, hein, leur match de barrage. Et quand même un peu déçu cette saison quand même. Et Reims, ça c'est un peu pareil. Reims, on les voyait à un moment donné, on les voyait bien quand même. Ils ont fait deux, trois bons résultats dans la foulée de leur qualification, je crois, en Coupe de France, leur victoire contre l'OM. Et on sentait qu'on avait l'impression que ça allait beaucoup mieux. Puis finalement, bah, ça c'est le coup de massue, quoi.
Oui. Alors justement, les Messins, hein, ils se sont imposés, comme tu l'as dit, difficilement dans le deuxième play-off, hein, par la petite porte, dans le temps additionnel contre Dunkerque 1-0. On va rappeler que Dunkerque avait gagné son premier play-off dans le même, sur le même score contre Guingamp 1-0. Et que un des deux, en tout cas, donc pourra donc poursuivre l'aventure, soit en Ligue 1 pour Reims, soit donc Metz qui retrouvera à nouveau la Ligue 1.
Ouais, tout à fait. J'aimerais pas être, bien sûr, c'est comme je pense beaucoup de gens, être à la tête d'être l'entraîneur du Stade de Reims. Là, ça va être compliqué parce que quoi choisir, essayer de choisir les deux. Ouais. On peut dire aussi que, on dit en général quand même que le barragiste, c'est avantage quand même à l'équipe de Ligue 2, qui normalement est sur une pente ascendante par rapport à l'équipe de Ligue 1 qui est sur une...
Ça, c'est pas toujours vérifié. Hein. On s'appelle Dijon qui avait battu Lens. Par contre, l'année dernière, c'était l'inverse avec Saint-Etienne. Bon, ça s'est pas toujours vérifié. Hein.
Ouais. Ça s'est pas toujours vérifié, mais on dit souvent ça. Quoi. Les entraîneurs, c'est ce qu'ils disent. Donc, mais après, le gros coup de massue d'être prévenu... C'est quand c'est après-demain, oui, donc c'est prévenu 4 jours avant, 5 jours avant. Je pense que samedi, ils ne s'attendaient certainement pas, d'ailleurs, comme très peu de gens, à part les supporters avrés, les mordus du hack, très peu de gens voyaient quand même le Havre gagner à la Méno, quoi. Donc ça leur est tombé dessus, et pour rebasculer dans ce match-là, ça va être très, très, très compliqué, quoi.
Allez, on en vient aussi à la nationale. Alors, je voulais simplement dire qu'on reviendra naturellement plus en détail, hein, sur toutes ces saisons avec notre ami Guy Michelin la semaine prochaine, qui sera notre invité. Et puis, on aura le président, donc Antoine Ferracci, au téléphone pour parler de la belle saison du Paris FC. Voilà. Donc, le national, 34e et dernière journée. Donc, le Paris 13 Atlético a réussi donc son maintien. Vainqueur de Concarneau 2-1. Châteauroux est allé faire match nul, mais n'est pas passé bien loin pour le maintien. Ils sont allés faire match nul à Boulogne-sur-Mer 1-1. Victoire du Mans devant Versailles 2-0. Et nul entre Nancy et Rouen 1-0. Ce qui fait que Nancy, donc, on l'avait dit, hein, termine en tête de ce championnat national version 2024-2025 avec 65 points. Devant le Mans, deuxième 58, les deux équipes joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Boulogne-sur-Mer donc jouera Clermont-Ferrand pour les barrages donc de Ligue 2 nationale, donc troisième avec 56 points. D'ailleurs, les matchs auront lieu les 20 mai et 25 mai. Et puis en bas de tableau, donc 13e Versailles, 36 points. 14e, le Paris 13 Atlético, 35 points. 15e, donc Villefranche-en-Beaujolais, 34 points. Et les deux équipes donc, qui descendent donc en National 2 la saison prochaine, ce sont Châteauroux, 16e, 33 points. Et 17e, Nîmes, 28 points. Voilà, donc il y aura bien trois clubs franciliens en National, Stéphane, la saison prochaine.
Ouais, c'est ça qui est beau. Alors bon, il faut quand même mettre quand même quelques petites pincettes à ce bilan, descente et montée, surtout parce qu'il va quand même y avoir la DNCG qui va être passée par là. Mmh. Donc on ne sait pas encore exactement, peut-être que Châteauroux, par exemple, va parvenir à se sauver au détriment. Ils sont un peu sans pitié, surtout pour les clubs de National. Maintenant, c'est vrai que ça va être une belle année quand même. Faudrait regarder historiquement, mais deux clubs en Ligue 1 pour la région Île-de-France. En Ligue 2, on a
le Red Star qui reste.
On a le Red Star qui est en Ligue 2. Après, en National, on a Versailles et le Paris FC. Fleury monte en National, c'est ça?
Oui, il y a trois équipes la saison prochaine. Versailles, ouais. Donc ouais. Le Paris 13 Atlético et puis Fleury.
Et Fleury, ça fait quand même...
au moins 10 ans. C'était un petit peu un parcours similaire avec le Paris FC. C'est-à-dire qu'ils passaient tout près à un moment, mais ils n'y arrivaient pas. Puis cette année, l'année où le Paris FC donc, monte, eh bien, Fleury Mérogis monte aussi. Donc c'est bien.
Ouais, donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 6 clubs dans les trois premières divisions, bon, c'est un minimum. Hein. En Angleterre, il y en a 6 qui doivent jouer en première ligue. Donc, c'est le minimum. Mais c'est bien quand même. Quoi. Ça commence à pas montrer de la consistance pour la région parisienne, quoi, ce qui est bien mérité, quoi, et ce qui est logique.
Oui, puis je l'ai dit, on en reparlera avec le président Ferracci, donc la semaine prochaine qu'on aura au téléphone. Juste pour finir, comme pour donc les matchs de barrage, eh bien la régularité a joué dans la finale féminine play-off, puisque Lyon, qui avait été régulièrement en tête, s'est imposé largement devant le Paris Saint-Germain 3-0. Lyon qui a obtenu son 18e titre de champion de France chez les femmes.
Ouais, ouais, bravo, puis ça joue chez eux. Bon, le match était Paris peut avoir quelques petits regrets. En première mi-temps, c'était bien plus accroché. Mais bon, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Je pense que le Paris Saint-Germain, de toute façon, mérite rien du tout. Ils ont fait une saison. Je pense qu'ils n'ont pas fait une bonne saison sur le plan interne. Ils ont eu plein. Même toute la saison. Là, quand on voit qu'ils vont jouer ce match, Marie-Antoinette Catoto, qui était l'année dernière, je crois, encore la meilleure buteuse du championnat de France, qui est une des meilleures joueuses françaises, internationales françaises, elle joue pas pour un problème de contrat, d'attitude, des problèmes internes. Ils sont tombés, je trouve, avec un nouvel entraîneur qui était là depuis 3 jours. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Donc, je pense que la logique, heureusement, quelque part, finalement que l'OL a remporté le titre. Ça aurait pas été mérité, je trouve, que Paris l'emporte.
Ouais, et puis les playoffs, ils ont vraiment respecté la saison donc régulière, un petit peu comme les playoffs pour les matchs de barrage pour l'instant. Hein.
Ouais, tout à fait. C'est pour ça que vous avez vu que dernièrement on a parlé dans la semaine, là, on commence un petit peu à en parler pour les garçons. Là,
j'espère pas.
Ouais, ils annoncent cette révolution et tout, et c'est vrai que ça a vraiment du pour et du contre. Et comme on l'a vu et on le voit chaque année avec les filles, on l'a vu cette année encore plus, c'est que les 5-6 derniers matchs de la saison, ils n'auront plus aucun intérêt, quoi. Ils n'auront strictement plus aucun intérêt. Ce qui a été le cas, on en parlait ensemble là, toutes les semaines, Philippe, en disant ça bougera pas, ça sera ce que c'est, quoi. Mmh. Et puis donc ça enlève pas forcément, ça va pas forcément amener beaucoup plus d'intérêt. Je pense que le combat, le débat et le combat, il est ailleurs pour les clubs, pour essayer d'être plus performants, d'être plus impliqués, et puis de faire des meilleures saisons, parce que c'est pas normal qu'on retrouve des clubs. Pourquoi il y a 19 points, ou oui, c'est ça, 19 points d'écart entre PSG et l'OM, et puis il y en a 3 ou 4 entre l'OM et Nice, par exemple. Mmh. Donc c'est pas normal. Donc c'est je pense que l'effort doit être fait ailleurs.
Très bien. Merci Stéphane de nous avoir accompagnés donc au cours de cette émission. Puis on compte sur toi la semaine prochaine, hein, président Ferracci, Michelin. On fera un large tour d'horizon de cette saison 2024-2025.
Ok, bon voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Stéphane. Allez, le point après le foot et le hand, des autres grosses actus sportives avec Alexandre.
C'est ça Philippe, donc on commence au journal des sports avec la Formule 1 et le Grand Prix Émilie-Romagne en Italie. Victoire de Max Verstappen cette fois-ci, suivie par les deux McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Hamilton avec Ferrari réalise une bonne course et termine quatrième. Et au classement des constructeurs, McLaren leader loin devant Mercedes et Red Bull, Alpine seulement neuvième. Et au classement des pilotes, Oscar Piastri toujours premier, suivi par Lando Norris et Max Verstappen. Toujours en sport mécanique, il y avait également le rallye du Portugal avec la victoire du Français Sébastien Ogier.
Deuxième victoire de la saison,
cette fois-ci il est suivi par Ott Tanak et Cali Rovanperä. Cette victoire permet aux Français de monter à la troisième place du classement des pilotes avec 86 points, juste derrière Cali Rovanperä 88 points et Elfyn Evans 118 points. En tennis, grosse victoire de Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Rome.
Contre
Yannick Sinner.
Eh oui, donc ça sera peut-être la finale de Roland-Garros.
Il a perdu à domicile Yannick Sinner 7-6, 6-1. À une semaine de Roland-Garros, l'Espagnol fait le plein de confiance. Et chez les femmes, l'Italienne Jasmine Paolini, numéro 4 mondiale, remporte le tournoi à domicile contre l'Américaine numéro 2 mondiale Coco Gauff en 2-7 gagnants, 6-4, 6-2. Coco Gauff, elle a un petit peu de mal dans les derniers carrés dans la finale. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais elle n'arrive pas à franchir le petit palier des finales. En cyclisme, Philippe, on fait un point rapide sur le Giro d'Italie.
Encore l'Italie, quand même, ça n'arrête pas entre le tennis et puis la Formule 1.
Ouais, là c'est la semaine Italie. En plus, t'étais à Rome il y a 2 semaines. Le Mexicain Isaac Del Toro est leader après l'étape 9, suivi par Juan Ayuso, l'Espagnol, et Antonio Tiberi, l'Italien. En tennis de table maintenant cet après-midi, Félix et Alexis Lebrun se sont qualifiés finalement face aux Iraniens pour les huitièmes de finale du tournoi de double des championnats du monde. Fin de parcours en revanche pour la paire Pritika et Pava de Simon Gauzy en double mixte. En canoë-kayak, un sport dont on parle peu.
C'était à Vers-sur-Marne, les championnats.
C'était à Vers-sur-Marne.
Sur le site olympique.
Donc les championnats du monde qui se jouent en fin de semaine entre jeudi et.
C'était les championnats d'Europe.
Championnats d'Europe, ouais. Pardon, oui. Et bon résultat pour les Bleus qui ont remporté l'or avec Camille Prigent et l'argent avec Emma Vuitton et Benjamin Régnard.
Ça en fait boxe, 13 médailles au total pour la délégation française, dont 9
oui,
médailles d'argent.
C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Non, oui, 13 ouais. médailles. Ouais.
Bah moi, je lis tout, alors je fais tout.
En boxe, grand retour, Philippe, de Tony Oka,
oui.
qui a affronté le russe Arslan Yaliev. Et il s'en est sorti au point, Tony Oka. Mm-hmm. 96-94, 98-92, 97-93, donc c'était assez serré.
Ouais.
Grosse ambiance à la Adidas Arena.
Ouais, alors il y avait 3 événements à Paris samedi soir. Il y avait le foot au Parc des Princes, ouais. il y avait le handball
à Bercy,
et la boxe à la Adidas Arena. Il y avait l'embarras du choix.
Il y avait l'embarras du choix et ça a très bien fonctionné. Ouais. Et en plus, ils se sont poussés des ailes, Tony Oka, parce qu'il a teasé à ses fans un possible combat à Wembley face à Joyce pour un petit remake.
Espérons-le.
On l'espère, ouais. En rugby, on jouait la 24e journée de top 14 et le Racing a gagné contre le Stade Toulousain 37-35 et le Stade Français contre Lyon 31-30. Au classement, avec cette victoire, le Stade Français sort de la zone rouge et revient à la 12e place et le Racing est 10e. En basket, Philippe, c'était la 30e et dernière journée de saison régulière. Le Paris Basket a gagné contre Nancy 105-86 et Nanterre a perdu contre Le Mans, contre Le Portel 90-70. Au classement, les Parisiens finissent premier de saison régulière et les Nanterrois 13e. Alors pour les playoffs, le Paris Basket affrontera le vainqueur de Chalon-sur-Saône-Dijon en play-in et Lyon-Villeurbanne affrontera le vainqueur de Nancy-Saint-Quentin. Sinon, les deux autres affiches sont déjà connues. Il s'agira de Monaco contre Le Mans et Cholet contre Bourg-en-Bresse. Et chez les femmes, après avoir remporté le dernier match 84-51 contre Tarbes, le Basketland s'adjuge le championnat de France en ayant remporté 2-1 en cumulé. Et on termine comme d'habitude ce journal des sports avec le volet et Tours qui remporte ce championnat de France. J'ai envie de dire, la logique est respectée, les favoris ont gagné. Les Tourangeaux avaient remporté leur premier match 3-1 contre Poitiers et ont également gagné samedi dernier la deuxième manche 3-0.
Voilà pour ce journal des sports, une nouvelle fois, comme chaque semaine, très très complet.
Peut-être un mot aussi sur Daniel Bilalan qui nous a quittés.
Oui, bien sûr. Ouais. Directeur des sports de France Télévisions, ouais. qui nous a quittés donc, cette semaine. Bertrand, donc, le sport en général, en dehors du baseball, ça vous intéresse?
Ah oui, oui. Oui. Après,
ouais,
c'est vrai.
Le foot fait pas trop de cache pas trop le baseball.
Non, bah, moi j'habite dans le 16e, pas loin du parc, donc je vis le
Parc des Princes, je vis le sport. Roland Garros, Auteuil, Longchamp, Coubertin,
il y a de quoi faire. Le sport c'est baseballé dans ma vie, mais on apprécie tous les sports.
Très bien, merci. Donc, dernier petit mot, si on veut rejoindre Ranlac, le site internet.
Allez sur l'Instagram, c'est le plus simple, Ranlac Paris Baseball. Et puis, vous y trouverez toutes les infos pour nous contacter, c'est le plus simple.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci à vous, voilà. Merci beaucoup.
Merci donc merci. À Vanessa, merci donc à Alexandre. On va remercier naturellement donc Léo pour une nouvelle fois avoir été très très brillant à la technique. Et puis, on passe le témoin à nos amis de Au Bout du Foot qui vont encore aller plus loin dans l'actu foot de la semaine. Et puis la semaine prochaine, nous, c'est Guy Michelin qui sera avec nous pour faire un large tour d'horizon de l'actu. Puis je l'ai dit, on aura aussi le président Antoine Ferracci au téléphone pour revenir notamment sur cette belle année du foot francilien. Belle soirée à tous et à toutes. Tiens, on vous laisse avec. Allez, elle a fait 7e de l'Eurovision, c'est Louane. Donc celle qui termine donc cette émission en musique. Belle soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide écran, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman. quand il me tient la main. J'ai plus peur de rien et ça me fait comme avant quand toi tu me tenais la main. Maman, 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 maman.